L'expérience, c'est une somme de moments, de vécus, qui nous forgent et nous définissent. Comme l'on parle d'UX pour sonder l'expérience utilisateur, ce podcast sera centré sur l'expérience dirigeant, ou DX, à l'image de l'accompagnement que nous leur proposons chez dirigeants et partenaires. DX, c'est une plongée dans les moments de vie qui ont transformé les parcours de ces dirigeants. Avec leur coach, ils nous confient les moments de bascule, et parfois même les épreuves, qui les ont fait devenir les femmes et hommes accomplis d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, dans DX, l'expérience dirigeant, nous vous proposons de vivre l'aventure de la reprise d'une entreprise avec Shafik Hamadi, actuel président-directeur général de Marie de Livignac, entreprise spécialisée dans les produits du terroir aveyronnais. Précédemment directeur général en charge des zones de croissance chez Bell, après un riche parcours chez plusieurs grands noms des FMCG, Shafik partage avec nous les raisons qui l'ont conduit à choisir la voie de l'entrepreneuriat, mais aussi les réalités d'un parcours de reprise d'entreprise. La reprise d'entreprise est une option considérée par un nombre croissant de dirigeants que nous accompagnons dans leur transition professionnelle. Cet entretien vous permettra peut-être, vous aussi, d'avancer dans votre propre réflexion. Bonjour Shafik.
Bonjour Yves.
Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de Marie de Livignac, cette entreprise agroalimentaire dont tu es devenu le propriétaire et le PDG, c'était, je crois, en juillet 2023.
Bonjour Yves, merci pour l'invitation et la possibilité de partager un peu mon expérience. Alors, Marie de Livignac, c'est quoi ? Marie de Livignac, c'est une petite entreprise, une TPE, qui allie deux choses, le terroir et la technologie. Le terroir, parce qu'on produit des plats du terroir, aligots, estofinades, truffades, gâteaux aux noix, flônes, foisses, et technologie, parce qu'on fait des produits lyophilisés, qui est assez technique. Voilà ce qu'est Marie de Livignac, présente dans la GMS, en MDD et en marque propre, donc on est IFS, en conventionnel et en bio, donc on est aussi certifié EcoCert. Au-delà de ce que l'on fait là jusqu'à il y a quelques mois, on fait aussi des rations pour la randonnée et le trek, et aussi l'armée. Donc voilà ce qu'est cette toute petite entreprise en plein milieu de l'Aveyron.
Alors est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots ton parcours professionnel et ce qui t'a conduit à t'engager dans cette aventure de reprise d'entreprise ?
Ah, oula, ça va être long parce que le parcours a été quand même assez long. En deux mots, je suis presque un pur produit de grande consommation de la FMCG. J'ai été chez Colgate, chez Danone, chez Bell en tant que patron de pays, patron de région. J'ai eu la chance de vivre dans différents pays, de gérer différents business models, de la start-up à la boîte de 150 millions, de l'intégration, de l'acquisition. Donc voilà, puis je suis aussi binational, donc j'ai vécu un peu partout. Et donc voilà, je suis un produit du monde et de la grande conso. En revanche, il y a un truc qui m'a poussé à, on va dire, changer de vie, en fait. Bon, déjà, j'ai bien vécu ce que j'ai vécu parce qu'on m'a fait énormément confiance, donc je me suis pas mal éclaté. Et au-delà de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu gérer, je pense à avoir souvent fait bouger un peu les lignes. Et pourquoi fait bouger un peu les lignes ? Parce que j'ai toujours été impressionné, voire été en admiration des entrepreneurs avec qui j'ai dû interagir. Des gens qui, parfois, qu'on regardait nous salariés de haut, qui savaient pour nous pas parler, qui n'avaient pas du tout le look ni les codes, et qui étaient d'excellents managers et d'excellents entrepreneurs et qui avaient fait des choses formidables. Et ça, ça m'a toujours bluffé. Et si bien que j'ai, pendant ma période de salariat, créé ou monté des petites boîtes avec des copains, etc. Et donc, ça, c'était quelque chose qui me bouffait de l'intérieur. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu arrêter cette vie hyper confortable de cadre dirigeant multinational.
Alors, avant de parler de la reprise de Marie de Livignac, est-ce que créer ta propre entreprise, ça pouvait être une option ?
Alors, oui, j'y ai pensé. J'ai créé à l'époque une petite entreprise en pleine crise de com, mais c'est très vite sorti de mes objectifs. Pour moi, ça aurait été trop long et je pensais, j'étais convaincu, je le suis encore un peu, que j'aurais été trop souvent seul, du moins plus seul que dans une entreprise que j'aurais acquise. Ouais. Donc c'est très vite sorti de mon scope.
Alors pour la reprise, alors c'était au démarrage de ta transition chez Dirigeant Partenaire, tu as commencé par suivre une formation CRA, cédant et repreneur d'affaires. Alors, sur quelles autres ressources tu as pu t'appuyer pour définir ton projet, pour définir ta cible? Et peut-être ce qui serait intéressant, c'est que tu nous dises comment tu as mené ta recherche, en fait. Quels critères étaient les plus importants pour toi?
Ouais. Alors, comme je te le disais, c'est un truc qui me bouffait de l'intérieur quand même depuis un moment. En fait, j'ai décidé de démissionner du groupe dans lequel j'étais et j'avais déjà deux dossiers en étude. Un seul avec un copain, où on était deux, et puis un autre en attelage avec un fond. Donc cette envie de reprendre était en moi. Je m'y préparais inconsciemment. J'avais fait quelques années avant le certificat d'administrateur à Sciences Po. Puis dès que j'ai quitté le groupe, j'ai fait deux choses, donc le CRA et puis un certificat de M&A and Corporate Finance à l'INSEAD. Donc quelque part, je me cherchais, j'essayais de comprendre un peu ça.
Il y avait cette préparation.
Je me préparais en me disant, je ne sais pas, à la fin peut-être que ça va le faire et puis on verra bien. Et voilà comment je me suis préparé. Après, ce qui m'a beaucoup aidé, clairement, c'est les différents clubs, notamment le club Entreprendre ici chez DEP, avec qui j'ai pu échanger. Parce que moi, parmi les enseignements que j'ai tirés de ces quelques années, c'est le partage et le fait de comprendre qu'on n'a pas la vérité, même si à la fin, c'est nous qui décidons. Mmh. Et donc, le partage m'a énormément aidé.
Alors, notamment pour définir ta cible, définir ta stratégie finalement.
Oui, cible, à la fin, elle devenait presque évidente, dans le sens où je me suis dit, tu ne vas pas te réinventer ou réinventer plein de choses. Malheureusement, avec le temps, comme je te l'ai dit, je suis un produit de la grande conso, donc il me fallait aller dans des produits de grande consommation. Je suis sensible à certains sujets, le terroir, donc l'AOP, donc j'aurais rêvé, je rêve encore de toucher un peu plus les produits AOP, le bio, essayer d'avoir soit une entreprise et des produits qui ont quand même du sens, qui sont nécessaires, qui répondent vraiment à un besoin. Donc tout en posant ça sur un papier, ça définissait un peu ma cible. Comme j'ai eu un long parcours à l'étranger, au départ, je considérais éventuellement acheter à l'étranger. Donc, j'ai eu des dossiers sur l'étranger qui n'ont pas abouti, mais qui auraient pu être une option. Donc, je n'avais pas de limite en termes de géographie. Voilà. Et puis après, je laissais pas mal de portes ouvertes, seul, avec un fond, évidemment, avec certaines de mes contraintes. Donc, voilà un peu mon but, c'était être dans l'agro, dans la grande conso, un produit avec une marque. Et vu mon background d'ingénieur, je voulais quand même une usine, à terme faire de l'internationalisation, des produits qui ont du sens. Voilà un peu le cahier des charges que je m'étais fixé.
D'accord, pleinement rempli avec l'entreprise que tu as maintenant. Alors, est-ce que tu t'étais posé la question d'une association? Tu parlais de fonds à l'instant, donc sur quelles ressources financières tu as pu compter? Banque, fonds, éventuellement associés ou...
Oui. Alors, à la fin, j'ai fini par y aller seul, avec l'appui des banques en dette, Crédit Agricole notamment et BPI. Mais j'ai étudié des dossiers en association avec des amis, en attelage avec des fonds. J'avais quand même en tête, au-delà des critères de choix de la boîte, j'ai encore quelques critères, notamment en termes de gouvernance. J'ai besoin et j'avais besoin d'être en contrôle, quoi. Donc, le tour de table était important, certes, mais à la fin de ce tour de table, il me fallait être en contrôle de ces opérations. Parce que je vais du principe que quand on monte sur un bateau, il y a un moment où il faut avoir la barre, quoi. Sinon, on ne le fait pas.
D'accord. Alors, combien de temps s'est écoulé entre le moment où tu t'es lancé dans la démarche et le moment où tu as conclu ton deal à Marie de Livignac?
Comment ça s'est passé? Quand j'ai lancé la démarche dans ma tête, 3 ans, quand j'ai commencé l'accompagnement avec DEP, 2 ans et demi,
Deux ans et demi.
Donc, c'est plutôt long. Après, comment ça s'est passé?
C'est quoi les principaux défis que tu as rencontrés pendant cette
période? Alors, les principaux défis, c'est un autre monde par rapport à un monde de dirigeants. Alors, il y a des choses passionnantes, c'est qu'on rencontre des gens souvent passionnants, des gens qui ont créé, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Après, il y a d'autres défis et d'autres obstacles. C'est qu'on a souvent des gens qui veulent et qui ne veulent pas en même temps, parce que c'est des changements de vie. C'est c'est du
business. Pour les cédants.
Pour les cédants, c'est des vrais changements de vie. Donc, si on n'intègre pas tous les aspects humains dont on a, qu'on n'a pas vraiment l'habitude de gérer, bah, on n'a que des surprises. C'est tout, quoi. Le gars qui te dit oui, qui te dit non, qui t'écrit oui et qui te réécrit non.
Qui peut éventuellement changer le prix aussi.
Qui change le prix et qui, au fur et à mesure, sans t'en apercevoir, t'es en train de servir de lièvre. Donc voilà, c'est très très long, mais c'est extrêmement passionnant. Donc moi, j'ai plutôt très bien vécu. Enfin, je suis hyper content de ces deux années et demie qui ont passé, quoi.
C'était combien de deals en deux ans et demi, à peu près ?
Oula ! Alors, j'ai eu énormément de dossiers, si bien que c'était un peu anormal et que je m'étais même posé la question de devenir un peu intermédiaire dans le M&A, quoi. Donc, j'ai eu, sur la table, vraiment, des vrais dossiers, une bonne trentaine et une bonne vingtaine étudiés avec des échanges formels, etc. Et tout est possible, hein. Je veux dire, il y a un deal que j'ai raté, on a fait deux LOI, on s'est fait doubler par un autre fonds. Un an et demi après, le fonds qui a gagné est revenu vers moi pour me proposer de les rejoindre, quoi. Donc, tout est possible pendant ces deux périodes.
Et ça reste une bonne expérience, même si le deal n'a pas été conclu.
Pour moi, je suis hyper content que le deal n'ait pas été conclu. C'est marrant, mais...
Ah, c'est intéressant.
Ah non, mais c'est dingue. Et donc, je suis content à la fin que ça n'ait pas été conclu. Et je suis content d'avoir vécu ces deux années qui m'ont énormément formé, qui m'ont appris à bien vivre, que ben, la vie, elle est faite d'obstacles et que si on ne sait pas vivre les obstacles, il ne faut pas se lancer dans la course. Qui m'a reconfirmé que... Comme on le disait, là, il faut profiter du voyage, il faut profiter de tous les jours. Et donc, c'était long et pas long en même temps, quoi. Donc, moi, j'ai adoré, quoi. J'ai beaucoup profité de cette période.
Et finalement, certaines affaires les bonnes affaires sont celles qu'on ne fait pas parfois, c'est ça ?
Ah oui, oui. Certaines affaires, c'est celles qu'on ne fait pas. Et puis, il faut avoir clairement... et je pense que là, DEP m'a aidé quand même un peu, beaucoup. Il faut être aligné avec soi-même, quoi. Et ça, c'est fondamental. Parce que, un, ça permet de savoir ce qu'on veut. Deux, ça permet de dire non et de savoir pourquoi on dit non. Et d'être bien quand on dit, c'est pas une affaire pour moi.
D'accord. Alors, avec le recul, est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner à celles et ceux qui se lancent dans l'aventure, qui nous écoutent, peut-être ?
C'est bien présomptueux de donner des conseils. Moi, je vais partager un peu, de façon non structurée, un peu ce que j'ai vécu. Déjà, c'est un autre monde. Entreprendre, même si je me sentais entrepreneur, on me disait dans la boîte, ouais, t'es entrepreneur, etc. Non, mais c'est un autre monde quand on entreprend avec ses propres deniers et toutes ses économies. La deuxième chose, c'est qu'on rentre, et ça va être un peu méchant et ça risque de ne pas plaire à certains, on rentre dans un monde d'intermédiaires et de maquignons. C'est-à-dire, il y a beaucoup de conseils qui sont là pour faire leur deal et qui se fichent complètement du résultat. La troisième chose, c'est il faut pas se cramer avant le marathon, quoi. Il faut s'entraîner pour attaquer un marathon en grande forme. Le repos fait partie de l'entraînement et donc il faut vraiment en profiter. Il faut être vraiment aligné avec soi-même, c'est-à-dire avant de signer le deal avec Marie Livignac, il y a ce fonds qui m'avait rappelé, qui m'offrait sincèrement un pont d'or pour reprendre cette autre boîte qui était beaucoup, beaucoup plus grosse. Et j'ai écrit en bon écolier sur un bout de papier les plus et les moins des différentes options. Et là aussi, si je ne m'étais pas préparé à être clair avec moi-même, je pense que j'aurais pu faire le mauvais choix en me disant, ouais, il y a la dernière, la plus grosse Tesla et un salaire trois fois plus important que celui que j'avais avant. Et puis je me serais planté parce que j'aurais fait les mauvais choix. Oui, il faut profiter de tous les jours que l'on a. Hein. Je dirais, je ne recommanderais jamais assez de lire et de relire le poème de Constantin Cavafis qui est Ithaque. Il faut profiter pour être prêt au départ du marathon qui commence au closing, en fait. D'accord. Donc voilà. Et puis à la fin, je dirais quand même aussi, écoutez tout le monde ou écoutons tout le monde, mais mettons un coefficient supérieur en écoutant les vrais entrepreneurs, ceux qui sont passés par là, quoi. Et à la fin, on est les seuls décideurs, quoi. Si on n'est pas capable de décider seul, il ne faut pas aller dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ne se fait pas par dépit, il se fait par forte envie, quoi.
Très bien. Alors aujourd'hui, comment est-ce que tu vis la transition du statut de dirigeant salarié d'où tu viens, à celui de propriétaire d'entreprise.
Oui, alors, je peux dire qu'en 2 ans et demi, je m'y suis préparé un peu. Non, je le vis bien parce que, encore, je reviens par rapport à l'alignement et tout ce qui est important pour moi. Parmi ce qui était important, c'était d'interagir avec les gens. Et le fait d'être avec une équipe, j'interagis avec des gens différents de moi, des gens qui n'ont pas la même maturité que moi, etc. Et ça, je le vis bien, voire très bien. Comme j'ai réussi à avoir une petite entreprise avec une marque, avec de la techno, etc., j'ai tous les ingrédients sur la table pour faire ma cuisine. Donc, je suis plutôt content. Globalement, j'ai pas voulu rentrer trop dans le détail ou me fâcher sur le moindre détail avec le cédant, je me suis inconsciemment forcé à voir de l'avant plutôt que de voir toutes les aspérités qui vont pas bien. Et ça se transparaît aussi au niveau de ma relation avec les employés. Et donc, inconsciemment, on est tous projetés vers l'avant. Et ça, c'est important, quoi.
Alors, ça vous a permis de remporter un grand marché, un marché important dont tu parlais d'ailleurs au tout début, sous ton impulsion. Mm. Alors, comment tu as pu intégrer justement ta vision en respectant la culture de l'entreprise ?
Alors, deux choses. J'ai essayé de comprendre au mieux la culture dans l'entreprise et j'ai même fait un truc que le cédant a un peu critiqué, mais sur lequel il n'était pas complètement d'accord. Le cédant a racheté cette boîte en 2011 à une dame qui a fondé la boîte en 91. Et j'ai réussi à prendre contact avec cette dame qui, il y a quelques jours, est venue me voir à l'usine, alors parce qu'elle s'était fâchée avec celui à qui elle avait vendu la boîte. Et pour moi, ça fait partie, pour moi et vis-à-vis de mes employés, de montrer qu'on s'inscrit dans la continuité de quelque chose qu'on fait évoluer. Donc, moi, mon objectif, ce n'est pas d'effacer tout ce qui a été fait, loin de là. Au contraire, c'est d'essayer de comprendre les fondamentaux de cette boîte et de construire là-dessus. Et je pense qu'une fois que je me suis dit ça, que je l'ai dit à mes collaborateurs, ils comprennent que, par définition, on fonde notre construction de demain sur ce qui existe aujourd'hui, que ce soit des employés, que ce soit la fondatrice, etc. Donc, il y a eu un moment très émotionnel il y a quelques jours quand elle est venue, parce qu'elle était parvenue depuis 91 dans la boîte, et pour m'expliquer un peu le pourquoi en un mot et le pourquoi en deux mots de la construction de cette boîte.
Donc, un retour aux racines.
Et ça m'a permis aussi de lui passer à elle un message, et surtout à mes collaborateurs en même temps, de dire, quand on mange le fruit de l'arbre, il ne faut jamais oublier celui qui a planté la graine, quoi. Et parce qu'il y a un pourquoi. Pourquoi là mettre une boîte avec de la lyophilisation en plein milieu de l'Aveyron, il faut être un peu gonflé quand même. Donc voilà, je le vis bien. Et puis, un produit du terroir, personne ne me le volera, ça. C'est pour ça aussi que j'ai choisi le produit du terroir. Lyophilisé, c'est un produit qui a 1000 destinations pour les chefs en RHF, pour faire des rations de combat, pour faire de la rando, et demain pour voyager. Donc la base, elle me permet presque tous mes rêves, j'allais dire, mais elle me permet de rêver pas mal, quoi.
D'accord. Et alors, puisqu'on parle de rêve, est-ce que, alors c'est peut-être une question plus personnelle, est-ce qu'au-delà de l'entreprise que tu as rachetée, est-ce que cette expérience te permet de réaliser d'autres rêves ou d'autres aspirations ? Je crois que tu as parlé de la reprise d'un lieu en particulier dans...
Oui, évidemment.
Tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui, sans problème, parce qu'en plus, c'est perso et c'est pas perso en même temps. Non, mais enfin, je reviens toujours, je suis un peu en boucle sur ce poème de Cavafis, qui est de profiter du moment. Et le fait de profiter du moment, en allant voir un épicier dans un village qui s'appelle Livignac, la boîte s'appelle Marie de Livignac, je cherchais un lieu où habiter, et puis j'ai découvert que le couvent de Livignac était à vendre, les religieuses de la congrégation de la Sainte Famille étaient parties en novembre 2022. Et donc, j'ai sauté sur ce truc-là parce que j'ai flashé, parce qu'il y a une chapelle, etc. Et parce que mon rêve était, depuis longtemps, même sur un vieux deal qui n'avait pas abouti, de faire un peu une résidence d'artiste et essayer de créer un peu de vibration en faisant un peu d'activité culturelle. Et donc, là, c'est tombé. Alors, ça me coûte un peu d'argent quand même, et surtout en énergie. Mais ce lieu, c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose. Il est à Livignac, c'est sur le chemin de Compostelle. L'Aligo est très lié au chemin de Compostelle. Ça m'a permis de mettre le siège social de l'entreprise à Livignac. Donc, en fait, tu vois, c'est personnel et pas personnel, quoi, quelque part. Il y a pas mal d'enchevêtrements. Donc, voilà, j'ai hâte. Quand même, la priorité reste de lancer, stabiliser Marie Livignac. Et puis, de m'occuper du couvent et de faire revivre et de redonner un peu de vibration à ce couvent.
D'accord.
Sans se tromper d'objectif. Et ce couvent m'aide aussi pas mal parce que comme je fais des travaux, avec toutes les difficultés que ça me permet aussi tous les soirs de débrancher de Marie Livignac, de débrancher du boulot de Marie Livignac, ce qui est très important pour un entrepreneur. Si on est à 100% matin et soir sur l'entreprise, je pense qu'on peut se faire mal et faire mal aux autres, quoi. Donc voilà, déjà, ce que m'apportent les galères de mon couvent et des travaux... ça me permet d'être content le lendemain quand je retourne au boulot, quoi.
Alors, avant de clore cet entretien, est-ce que tu peux nous dire un mot sur tes objectifs à long terme? Tu en as parlé en quelques secondes, là, mais est-ce qu'il y a, pour Marie Livignac, pour l'entreprise...
Oui. Bah, pour Marie Livignac, je pense que c'est... aujourd'hui, Marie Livignac est ancrée dans les produits du terroir, donc plats et préparation de plats, et principalement en GMS, et aussi pas mal en MDD. Donc mon but, c'est de créer trois piliers. Un que j'ai commencé d'ailleurs à créer, c'est aller vers la randonnée et puis développer aussi le business de l'armée, parce qu'effectivement, on a gagné l'appel d'offres pour les forces spéciales. Donc un pilier randonnée, trek, trek gourmand et trek terroir toujours, pas copier ce que font les autres, et un troisième pilier qui est snack, c'est-à-dire avoir des sachets de produits lyophilisés, des mélanges de fromage, de viande et de légumes en substitution des chips et des cacahuètes. Donc ça, c'est important, et puis réduire le poids de la MDD et de la GMS. Donc ça, c'est mon premier objectif. Si je l'atteins, c'est d'aller vers l'export parce que ces produits et cette techno a vocation de voyager. Donc c'est aller un peu au-delà de la France. Et au-delà de tout, après, ça ne se fera que si j'ai une équipe qui est complètement autonome et engagée et responsable pour que je lève le pied, quoi, un peu. Donc voilà un peu mes trois objectifs pour Marie Livignac.
D'accord. Ouais. Bien. Un projet de transmission, peut-être, par la suite?
Aujourd'hui, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est encore une fois, je vais profiter de ces années. Je ne veux pas me tuer à créer... En ayant l'impression de créer de la valeur pour une transmission future et donc de ne pas profiter de ça 5 ans pour arriver à la fin et de me retrouver autour d'une table avec soit un repreneur ou des banquiers ou des fonds. Et je vais vivre que... C'est comme si quand tu passes à bosser toute la semaine comme un malade en espérant avoir un bon week-end, mais tu arrives le week-end, tu es crevé, tu ne profites même pas du week-end. Donc je vais profiter de la semaine. La transmission à mes enfants, j'arrête pas de leur dire ce projet est le mien, ce n'est pas le vôtre. Si un jour vous avez des velléités sur ce projet, il faut vraiment en avoir envie. Ça ne sera pas un projet par dépit, ça sera vraiment un projet par envie, quoi. Et donc voilà. Et je pense que si je m'éclate bien, la valeur sera au rendez-vous, quoi. Je crois. Enfin, on verra bien.
Ok, en tout cas, c'est ouvert.
Oui, ouais. C'est ouvert. Ouais.
Merci, merci beaucoup, Chafik,
merci
pour
à toi,
ce témoignage très vivant et très inspirant. Et merci d'avoir participé à ce podcast.
Merci.
Et nous mettrons le lien vers le poème de Cavafis sur notre site.
Ah oui.
Merci, Chafik.
Merci encore, Yves. Merci.
Nous voilà déjà à la fin de cet épisode. Pour prolonger votre découverte DX Expérience Dirigeant, rendez-vous sur dirigeantetpartenaires.fr. Articles, événements, de quoi continuer à nourrir votre curiosité. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner.